chiens, chats et compagnie, la rubrique animaux avec le docteur vétérinaire Jean-Charles Duquesne.
Bienvenue pour notre rubrique Chien, chat et compagnie avec le docteur vétérinaire Jean-Charles Duquesne sur Radio VFM. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Régis.
Alors l'étiquetage des aliments pour animaux de compagnie, on en parle aujourd'hui, ça répond à une réglementation spécifique. Quelques conseils pour décrypter toutes les informations.
Ouais, l'intégralité des informations apparaissent sur l'étiquette d'un aliment destiné à un animal et elle est soumise à une réglementation. Hein. Tous les industriels adhérents de la FACO suivent un guide de bonnes pratiques et de réglementation dans le but d'homogénéiser et de clarifier cet étiquetage. La FACO a été créée en 1965, c'était le début de Canigou et Ronron, hein, souvenez-vous. Aujourd'hui, ce code de bonne pratique est devenu la référence et même la DGCCRF s'appuie dessus pour contrôler les étiquetages.
Alors, on décrypte ensemble les expressions utilisées. La première, aliment complet.
Certaines mentions obligatoires sont assez explicites, hein, aliment complet en est une. Elle est cependant un peu trompeuse car ça ne veut pas dire que l'aliment soit réellement équilibré. Aliment complet indique que l'aliment a au minimum toutes les substances nécessaires à la bonne forme de son destinataire et au minimum dans la quantité minimum qu'il lui faut. Donc ça fait beaucoup de minima, hein, tout ça. Hein. Cette liste de substances est régie par la FEDIAF, instance européenne au-dessus de la FACO. FACO, hein, c'est Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats et oiseaux. Vous pouvez vous procurer ce document, il est gratuit et libre. Il faudra juste le traduire puisqu'il est en langue anglaise. Il s'appelle Nutritional Guidelines. Le contraire d'aliments complets, c'est aliments complémentaires. Il sera nécessaire d'associer à d'autres aliments, hein, pour constituer une ration complète. On trouve cette mention sur les friandises, les os à mâcher, mais aussi quelquefois sur des repas que l'on croit complets et équilibrés, comme des filets de poulet ou de thon en bouillon. Hein. Attention à ne pas donner que cela, un aliment complémentaire ne doit pas représenter plus de 20% de la ration quotidienne de votre animal.
Mais il est obligatoire d'indiquer l'espèce de destination pour chat, pour chien,
hein. Oui, et même pour chat uniquement, pour chien uniquement. Et oui, parce que un chat n'est pas un petit chien. Les besoins sont à peu de choses près les mêmes, mais il existe tout de même des différences. Le chat a besoin de taurine, par exemple, pas le chien. Le chat ne digère pas plus de 5 à 8 grammes par kilo et par jour d'amidon, alors que le chien n'a pas de vraie limite tant qu'il est bien cuit. Bref, un aliment pour chat est fait pour les chats, un aliment pour chien est fait pour les chiens.
Alors ensuite, la liste des matières premières est également obligatoire.
Oui, comme sur les étiquettes de l'alimentation destinée aux humains, les ingrédients sont cités par l'ordre décroissant de leur importance, mesuré en poids brut, hein, dans la réalisation de l'aliment. D'abord, les matières premières, puis les additifs. La particularité des matières premières pour les animaux de compagnie, c'est qu'elles peuvent être déclarées sous forme de catégories. Viande et sous-produits animaux, par exemple. En fait, les fabricants d'aliments ont une tolérance avec ces catégories. Sur un produit pour un humain, tel qu'un pâté de foie, par exemple, il faut indiquer foie de porc ou foie de volaille, suivant votre recette. Dans un aliment pour chien et chat, qui déclare sa composition par catégorie, la recette peut varier un peu à chaque lot. Si le fabricant utilise du foie de porc habituellement comme source de vitamine A, s'il n'en a pas, il peut le remplacer par du foie de bœuf ou de volaille, par exemple. La condition, c'est que la recette soit complète et que l'analyse biochimique soit constante entre les lots. Le même ratio de vitamines, de protéines, de minéraux, ce que l'on appelle les cendres, hein, sur l'étiquette, et enfin de matières grasses.
Alors on peut tout de même préciser un peu plus qu'une simple catégorie au bœuf, par exemple, ça veut dire quoi?
Le pourcentage d'incorporation des matières premières est strict. Et si on précise au bœuf sur l'étiquette, c'est qu'il y a forcément du bœuf dedans. Au bœuf, c'est minimum 4% du total de la recette. Riche en bœuf, c'est minimum 14%. De bœuf, c'est minimum 26% du total des ingrédients. Attention, un produit au bœuf n'a pas que 4% de viande dedans. Hein. Un pâté pour chat a entre 40 et 60% de viande dedans. Mais ce qui, c'est qu'elle est complémentée par d'autres viandes, de la viande de porc, de la viande de volaille, par exemple, pour être complet.
D'accord. Et sur l'étiquette, il est indiqué donc sous-produit d'origine animale, c'est quoi?
C'est un abat, une carcasse, désossé mécaniquement ou de la viande. Toujours bon pour la consommation humaine, mais que l'on interdit de retourner dans le circuit agroalimentaire à destination humaine. Pour la DGCCRF, un ingrédient qui va pour un humain est un produit. Si et seulement si cet ingrédient reste à destination de l'homme, il peut être transformé et vendu. Le même, une fois destiné à un animal, devient un sous-produit. Je prends un exemple, à la sortie de l'abattoir, un kilo de gîte ou de paleron de bœuf, hein, qui part chez Bigard ou Charal, on va en citer deux pour pas faire trop de pub, pour faire du steak haché par exemple, c'est un produit. Il peut être vendu ensuite à une cantine, un traiteur, un grand distributeur, à ce que l'on veut. Ce même ingrédient qui arrive chez Normandise, c'est un sous-produit, il finira pour un animal, c'est la loi.
Ok, merci Jean-Charles, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.